Souverains anonymes, émission spéciale des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. 15 ans, écoute ça.
Donne-nous un cours. Mais c'est évadé de prison.
Au début des années 70, au Maroc, le général Oufkir a essayé de renverser le régime du roi Hassan II. Il a échoué, il a été assassiné et toute sa famille a été incarcérée pendant 20 ans dans le silence et l'indifférence totale. Malika Oufkir, la fille aînée du général Oufkir, a écrit un livre, La prisonnière. Elle est venue en parler pendant 2 heures aux Souverains anonymes. Voici une partie de cette belle rencontre.
Malika, 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 Malika.
Bonjour, je m'appelle Malika Oufkir et vous écoutez Souverain Anonyme.
Malika, Malika, Malika.
Hey Malika, je me suis rasé la tête spécialement pour toi aujourd'hui, mais je voudrais te souhaiter une bienvenue de Souverains Anonymes.
Salut, mon nom c'est Tony, moi j'ai faim, ça fait 10 ans, moi je suis en prison.
Bonjour Malika, mon nom est Marco, bienvenue aux Souverains Anonymes.
Bonjour Malika, mon nom c'est Paradis, je sais que t'étais dans l'enfer.
Allô Monica, mon nom c'est Tintin, et j'aurais aimé être avec toi pour creuser ton tunnel.
Bonjour Malika, bienvenue aux Souverains Anonymes, je m'appelle Yves.
Bonjour Malika, mon nom c'est Marc, j'ai 2 enfants, puis il me manque beaucoup.
Bonjour Malika, je m'appelle Donald, puis dans pas grand temps, je devrais sortir.
Bonjour Malika, mon nom est Gilbert, bienvenue au Souverain, merci de ta visite.
Bonjour Malika, mon nom est Julien. J'aimerais bien que tu nous donnes le truc de qu'est-ce que tu faisais avec la terre, parce que j'aimerais creuser le tunnel pour nous rendre en tanké.
Malika, Malika.
Hey Malika.
Salut Malika Oufkir.
Malika Oufkir, auteur du livre La prisonnière.
Bonjour Malika, moi bonjour. Je m'appelle Yves. Depuis plusieurs semaines, ton livre circule à Bordeaux. Mais moi, j'ai pas encore eu le temps de mettre la main dessus, mais j'ai entendu parler pas mal. Puis moi, il y a une question, comme la plupart du monde se pose ici, là. Moi, j'aimerais ça, c'est que tu nous parles de ton évasion. C'est comme, donne-nous un cours, ça. Mais c'est évadé de prison. Aussi simple que ça. Comment on s'évade de prison?
Est-ce que tu crois que te parler de l'évasion, comme on peut s'évader d'une prison, peut te servir?
Je passerai pour.
Non.
Non.
Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es rentré en prison, quelles que soient les raisons, mais le jour où les portes de Bordeaux se sont ouvertes, où tu as pénétré, je pense que tu savais déjà le jour où elles allaient se réouvrir et quand est-ce que tu allais repartir. Ce que nous n'avions pas, nous ne connaissions pas. Nous avons vécu 20 ans. 20 ans, ça rejoint un petit peu une notion d'éternité. On ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Donc il a bien fallu un moment. C'était le choix entre la vie et la mort. Soit nous acceptions de mourir à petit feu, étant donné que nous n'avions pas de santé, 20 ans sans soins, sans nourriture. Comme on disait tout à l'heure, on est passé par la nuit des longs couteaux où à un moment tu te dis, tu espères la mort parce qu'elle représente la délivrance et elle ne vient pas, elle ne veut pas de toi. Donc là, le choix reste, il faut faire quelque chose, entreprendre quelque chose pour continuer à se donner l'illusion qu'on existe. Et la meilleure façon d'exister, c'est de lutter et de faire des choix. Donc on a choisi de s'évader. Bon, maintenant, il y a le côté, comment on s'est évadé? Bon, je sais que c'est le sujet le plus chaud, le plus. Écoute, ça s'est passé, on peut dire simplement et en même temps. Bon, il y a eu des concours de circonstances parce qu'il faut situer les choses. On a été séparés pendant plus de 8 ans et au bout de 8 ans, on espérait une grâce royale. Mais finalement, au bout de 8 ans, les gardes sont rentrés pour nous dire, à l'occasion de la fête du trône, vous êtes autorisés à vous voir.
Ok, parce que vous étiez évadés.
Non, pas évadés, encore. On était séparés.
Vous étiez séparés dans la prison.
Dans les cellules et on ne se voyait pas. Donc, au bout de 8 ans, on se retrouve. C'était déjà le bonheur de se retrouver avec, au fond, dans le cœur de chacun, un désespoir ultime. C'est qu'il y avait la déception, c'est que finalement, si on nous autorisait à nous voir, c'est que la sentence était encore là, pour de très longues années. On s'est retrouvés. On a pu s'attarder sur les détails du physique. On a évolué, les uns ont vieilli, les autres ont évolué, ont grandi. Et puis finalement, le fait de se retrouver dans une même cellule à 7, ça devenait moins évident. Il a fallu s'inventer des choses. On a inventé des spectacles, on a inventé des histoires, une histoire que j'ai racontée pendant des années pour oublier. Et puis, le plus jeune, donc qui est rentré à l'âge de 3 ans, durant des années entières, ne faisait qu'entendre le bruit du moteur d'un camion Mercedes. Et son rêve, c'était de pouvoir le voir. Donc, une fois ensemble, il nous a demandé de faire un petit trou en hauteur sur l'un des murs. C'est ce qu'il a fait, et puis malheureusement, les gardes sont rentrés. Et en rentrant, ils ont fait un constat bête, en disant « tentative d'évasion ». Là, à nouveau, ils nous ont séparés. Le lendemain, on a été séparés. Et ma mère a décidé qu'au lieu de revivre la séparation, elle a décidé de faire une grève de la faim, en nous demandant de ne pas la suivre. Mais en prison, il y a un sentiment de solidarité incroyable. Et puis, on s'est dit, si elle décide de mourir, il n'y a pas de raison que nous, on reste. Donc là, à nouveau, ils nous ont séparés. Et on a fait une grève de la faim de 47 jours. On a constaté que finalement, c'était mourir. Après la grève de la faim, un prisonnier a besoin, quand il entame une grève de la faim, si tu veux, c'est une étape de rapport de force presque avec l'ordre établi, mais tu attends quelque chose, tu revendiques quelque chose. Sauf que pour nous, on n'avait absolument rien à revendiquer puisqu'on n'avait aucun interlocuteur. Donc on décide d'arrêter la grève de la faim. 47 jours, je n'ai pas besoin de préciser l'état de santé, la faiblesse. Donc il y a eu un désespoir et là il y a eu les tentatives de suicide parce qu'on a décidé d'en finir. Et puis on se réveille un matin et on se dit pourquoi ? Ce serait bête de mourir sans avoir entrepris quelque chose. Sauf que lorsqu'il y a eu soi-disant la première tentative d'évasion et ce n'était pas le cas, ils sont rentrés dans les cellules, ils ont enlevé toutes les vitres, ils nous ont enlevé tous les objets tranchant, c'est-à-dire petite cuillère pour manger. Et dans la cellule de ma mère, il y avait un escabeau. Bon, là, je suis obligée de vous expliquer ça dans le détail pour mieux comprendre cette évasion. Il y avait un escabeau qu'ils ont condamné. Cet escabeau donné sur une, comme un grenier. C'est là où on avait déposé tous nos bagages. Donc, ils ont condamné cet escabeau et ils ont condamné la porte. Ils ont mis des briques et du ciment. Dès lors qu'ils ont quitté la cellule, ma mère a mis mon jeune frère sur les épaules et elle lui a dit de retirer la brique tant que le ciment était frais pour qu'il puisse passer à travers. Et c'est là que l'idée du tunnel est arrivée. On a creusé le tunnel dans la cellule des filles. On a sorti évidemment la terre. La terre, alors on était en groupe, la terre, on l'a malaxée, on l'a pétrissée comme du pain et on en faisait de grosses boules. Ces boules qui séchaient et qu'on roulait de notre cellule, on avait fait un trou entre notre cellule et la cellule de ma mère, qui, elle, recevait les boules de terre, remettait mon frère sur les épaules, les jetait dans cette pièce, refermait la brique, jusqu'à ce qu'on atteigne, nous, le niveau des pierres. Et une fois qu'on a atteint le niveau des pierres, eh bien, à ce moment-là, tant que c'était des petites pierres, le travail était facile. Mais il nous est arrivé des moments de tomber sur de réels, des menhirs, des pierres immenses. Et qu'il a fallu tirer de là. Et qu'il a fallu glisser et les faire passer d'une cellule à une autre. Et encore une fois, l'exercice, ma mère, mon frère sur les épaules, relevant les menhirs et les mettant dans la pièce. Ce qui fait qu'on a eu la possibilité d'évacuer et la terre et les pierres, sans qu'il y ait le moindre doute. Sauf que on a été perquisitionné 3 fois par semaine. Et c'est de lundi, mercredi, vendredi, tous les matins, on était perquisitionné dans chaque cellule et qu'il fallait assurer la fermeture du tunnel sans qu'ils puissent, parce que quand ils rentraient perquisitionnés, c'était avec des torches parce qu'on n'avait presque pas de lumière, c'était avec leur pâte au gaz, ils marchaient, ils frappaient sur chaque dalle pour s'assurer qu'il n'y avait aucune résonance. Et nous, évidemment, on a comblé ce trou au fur et à mesure avec le peu de vêtements qu'on avait. On en a fait des sacs, on les a remplis de terre, et c'est comme ça qu'on a comblé le tunnel pour qu'il n'y ait pas de résonance. Et une fois qu'on s'est assuré, on a creusé 6 mètres de profondeur jusqu'à atteindre les fondations. Et une fois que j'ai touché les fondations, là, on a creusé à ce moment-là, dans ce sens-là, 6 autres mètres. Et on avait prévu l'évasion au mois de décembre. On s'est dit, étant donné que la prison était encadrée de guérites avec Mirador et des gardes, on s'est dit, c'était le mois d'avril. On s'est dit, on va creuser 6 mètres et on va s'arrêter. On ne va pas assurer la remontée pour des questions de sécurité, pour se donner le maximum de chance. On s'est dit décembre, on a choisi une nuit où il n'y aurait pas la pleine lune. On s'est dit avec la pluie, les gardes sont avec leur djellaba et leur capuche. Donc, avec le vent, ils ne pourront certainement pas nous voir ni nous entendre. Et puis, c'est comme ça. On a laissé le tunnel tel quel, on a refermé les dalles, et bon, le lendemain, l'occupation du prisonnier qui n'a rien à faire, on était assis par terre à se dorer un petit peu au soleil comme des lézards, et puis on avait des codes entre nous, et j'entends l'alerte donnée sur le mur, entre mon mur et celui de la cellule de ma mère. J'arrive précipitamment, elle me dit, voilà, ils sont sûrs ta cellule, et je les ai entendus dire que d'ici cet après-midi, ils vont monter une guérite avec spot qui va donner dans l'axe de la sortie. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, nous n'avons pas le choix. Si nous ne sortons pas ce soir, on ne sortira jamais. Et c'est comme ça qu'on a réouvert le tunnel dans la journée. C'était la première fois qu'on prenait ce risque et qu'on a assuré la remontée de 11h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi dans le tunnel, où j'ai fait cette remontée, c'est-à-dire creuser pour atteindre la liberté. Et voilà comment ça s'est passé, et on s'est évadé ce jour-là.
Merci.
Bonjour Malika, je m'appelle Julien. Tu seras toujours une princesse dans mon cœur parce que j'ai peu de temps à faire, puis je te félicite.
Merci.
D'avoir passé à travers ces souffrances.
Bonjour la belle Malika. Mon nom est Roger. Moi personnellement, j'aime bien ton histoire. Je considérais ton histoire, c'est l'histoire du siècle. Le destin vous a placé une princesse et en même temps une esclave. La vie vous a placé parmi deux bourreaux qui combattent pour le pouvoir, qui a oublié l'existence de cette petite fille, Malika. Voulez-vous m'expliquer un peu de cette histoire-là?
Je crois que il y a deux catégories d'individus. Il y a ceux qui ont une vie, et il y en a d'autres qui ont un destin. Pour ceux qui ont un destin et dont je fais partie, la vie s'est toujours imposée à moi sans me demander mon avis. Mais Je suis convaincue d'une chose. La plus grande richesse que j'ai par rapport à d'autres, c'est vrai que moi, j'ai un manque terrible, c'est que j'ai 20 ans de ma vie que je n'ai pas vécu, que j'entame la vie alors que j'aimerais tellement avoir tous les moyens pour la vivre. Je n'aurai jamais la chance d'être jeune, insouciante, de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais ma chance aussi, c'est d'avoir eu plusieurs vies. Et je crois que le fait d'accepter de mourir à chaque fois pour renaître, c'est une sensation qui n'a pas de prix. Et il faut aussi en payer le prix. C'est pour ça, pour en revenir à nous, ici, je dis bien nous, parce qu'on y est lié par quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes en prison, moi je suis libre. Et je tiens à vous dire quelque chose, si ça peut, non pas soulager, mais il faut croire en vous. Il faut savoir dépasser certaines choses. Et il faut accepter le fait que le jour où les portes d'ici se sont ouvertes et vous êtes rentrés, dites-vous que vous avez enterré celui qui était à l'extérieur, mais à une condition, sachez renaître ici en prison. Et vous avez toutes les chances de renaître. C'est pour ça, la souffrance peut être un grand enrichissement.
Donc, Naïka, vous êtes une personne, d'après la vie, qui a un destin difficile.
Oui, mais n'est-ce pas dans la difficulté aussi que l'on existe ?
Donc, la belle Maïka, je vous félicite. Vous êtes une femme de courage, continuez à lutter.
Merci.
Bonjour Malika.
Bonjour.
Ça va bien? Moi, je tiens absolument à mettre ma petite casquette de prisonnier. Ici, c'est notre oasis de liberté. On a aussi notre spécialiste et maître de l'évasion intellectuelle et musicale, Mohamed Lofti. Moi, je m'appelle Jean-Paul et je suis particulièrement et personnellement ravi de rencontrer la chair. L'héroïne est l'auteur de ce livre inusité intitulé La prisonnière. En passant, s'il y a des auditeurs qui croient que leur vie n'est qu'un lourd fardeau rempli d'embûches et d'injustices, je vous invite fortement à lire ce livre. Je vous garantis que votre lourdeur quotidienne sera allégée. Malika, dans ton livre, tu nous révèles tes 20 années en détention arbitraire qu'ont subi toi et ta famille au Maroc. En ce qui me concerne, je termine une sentence de 2 ans ici à Londres pour un crime que j'ai commis. Mes conditions de détention ne ressemblent en rien à ce que vous avez vécu. Même qu'après avoir dévoré votre livre, j'avais l'impression d'être détenu à la garderie du coin. Je suis également sur le point de signer un livre qui raconte mes 20 années d'arnaqueur et mon séjour derrière les barreaux, précisément ici à la populaire prison de Bordeaux. Mon livre s'intitule « Le souverain ». Souverain car la prison n'a pas su m'enlever ma dignité d'homme et ma liberté d'esprit. La prison fut pour moi un défi auquel j'ai survécu tout au long de ma vie. J'ai constaté que toi aussi, tu avais réussi et tu as plus de mérite que moi. Tu as réussi à sauvegarder ta dignité de femme et ta liberté d'esprit après 20 longues années de supplice à l'écart de tout. Ton livre aurait pu s'intituler « La souveraine », car écrire un bouquin, n'est-ce pas là la preuve irréfutable de cette souveraineté que tu as su préserver, et ce, malgré toutes les sévices carcérales que tu as reçues, en cachette, en silence, quelque part au Maroc, dans un coin perdu.
je n'ai pas lu ton livre, mais j'ai entendu beaucoup mes camarades en parler. Je ne connais pas le Maroc, je suis un Haïtien. Mais j'ai une idée de comment ça se passe quand il s'agit de militer pour les droits des exclus. Nous, les Haïtiens, nous sommes loin d'une société plus juste dans mon pays. Peut-être même plus loin que le Maroc. Si le Maroc réussit un jour à atteindre plus de démocratie et de liberté, ce sera grâce à ces hommes et femmes oubliés, des disparus, des torturés, des assassinés, des faux suicidés. Des hommes et femmes dont certains intellectuels sont connus, comme Labi, Sarfati. Mais la plupart de ces soldats de liberté sont inconnus de tous. Ils ne figurent dans aucun livre. À ces hommes et femmes, je m'incline et je rends un hommage. Et merci beaucoup.
Je te l'avais déjà vu à TV. Pour ça, j'ai un honneur aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le destin, de te poser une question. Moi, j'ai pas le pardon facile. Même. On se complique la vie là-dessus. Moi, depuis que. Quand tu as su que le roi Hassan II est décédé, il a été ton père adoptif, puis ton bourreau. J'aimerais ça savoir c'est quoi ta première pensée.
Ben écoute. Ça a été plutôt un sentiment de tristesse, de grande tristesse, parce que ce jour-là, j'ai compris que sa mort représentait en même temps la mort d'une grande partie de ma vie. J'enterrais une grande partie de ma vie en même temps. Non, mais une grande partie de ma vie, c'est là où 20 ans de prison signifient quelque chose. Le jour de ses funérailles, c'était, je voyais ma vie, c'est ma vie que j'enterrais à ce moment-là. Quelqu'un qui me l'avait volé et qui partait avec. C'était en même temps la confirmation que j'avais perdu beaucoup
des
de choses.
Des souvenirs de 20 ans qui ont parti là-dedans.
Tout à fait, c'est au-delà des 20 ans, c'est une vie.
Merci.
Toi qui as connu une enfance câlinée, douce et affectueuse,
auprès de ta famille naturelle et amoureuse, rien ne te prédisposait à une adoption royale, ce qui pour toi fut une déchirure brutale. Ainsi, le roi devint ton père, t'arrachant au nid familial. Ceci t'a permis, malgré tout, une adolescence sans égard. Tu sais, pour nous, les vies de château, c'est pas pénal. Jeune adulte, un rêve se réalisa, enfin. On t'a permis de retourner auprès des tiens. Retrouvailles, sécurité, joie et bonheur. Rien ne laissait présager le grand malheur. Un coup d'État éclata. Ton vrai père, on assassina. Votre famille au grand complet fut arrêtée. Mère, frère, sœur, même le bébé. Sans distinction, tous furent jugés. Coupable ou non, le roi en fit son affaire. Pourtant, même adoptif, c'était ton père. 20 ans de réclusion. Des innocents furent gardés sous observation. Des gens près de vous suivis en prison. Ils payèrent très cher leur amitié sincère. Ne reste plus qu'une solution. Il faut tenter une évasion. N'eût été d'une incroyable force de caractère, jamais personne ne serait sorti de cet enfer. Pourtant, toi, Maliga, tu as réussi. Parmi nous, aujourd'hui, aussi rayonnante et épanouie, tu es la preuve vivante de ce récit. Permets-nous de te souhaiter longue vie. Après tout, que tu prennes ton temps pour nous, je te le jure, tu es un cas. Oui, Maliga, tu es une vraie chavira. Ta présence, quelle chaleur. Toi ici, quelle bonne. Merci.
Hey! Bonne fête, souverains anonymes!
Bonne fête, souverains anonymes, pour leur 15e anniversaire!
Souverains anonymes, émission spéciale des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. 15 ans, écoute ça.
Est-ce que tu crois que te parler de l'évasion, comme on peut s'évader d'une prison, peut te servir?
On revient après cette pause.
Bonne fête, souverain anonyme, pour leur 15e anniversaire!
15 ans déjà?